toute cette tourmente, eh bien, Dieu a son serviteur à Jérusalem pour décrire les événements qui y sont survenus et pour faire en sorte que le nom de Dieu soit honoré. Et l'auteur du livre des Lamentations, eh bien, Jérémie, il était connu pour être, il avait un beau surnom, c'était le prophète qui pleure. Et une étude sur la vie de Jérémie révèle le portrait de quelqu'un qui manifeste une tristesse sans fin, ainsi qu'un état de profonde dépression face à la condition du peuple d'Israël. Et permettez-moi de vous rappeler brièvement qui était ce grand serviteur de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole, dans Lamentation, dans Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 6. Bon, chapitre 1, vous allez pouvoir suivre. Chapitre 1, je vais commencer par les versets 5 à 6. Alors, il avait reçu un appel dans le ministère qu'il n'avait pas demandé. Et on doit dire honnêtement qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui se proclament être les prophètes de Dieu, eh bien, dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui faisait une demande d'emploi pour devenir prophète parce qu'ils finissaient tous la tête tranchée ou ils finissaient de mort violente. Alors, il n'y a pas personne qui a touché sa pension de vieillesse en tant que prophète dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas une profession que les gens voulaient vraiment avoir. Et c'est un ministère qu'il n'avait pas demandé, mais regardez ce qui est marqué au verset 5 et 6. « Avant même que Dieu l'ait formé dans le ventre de sa mère, il l'avait mis à part pour le servir. » Est-ce que vous réalisez que ça s'applique aussi à nous, frères et sœurs, aujourd'hui? On est non seulement des enfants de Dieu, mais aussi des serviteurs de Dieu. Ah, excusez, Jérémie, allez dans Jérémie, excusez, oui, voilà. Oui, je dois vous brasser un petit peu un tableau de Jérémie, donc excusez-moi, il y a Jérémie et les lamentations de Jérémie. Jérémie, chapitre 1, versets 5 et 6. Alors, il est écrit, avant même que Dieu l'ait formé dans le ventre de sa mère, il l'avait mis à part pour le servir. Et c'est la même chose pour nous, on ne connaît pas l'avenir, mais pour tout enfant de Dieu, eh bien, vous pouvez avoir cette pensée ce matin, c'est qu'avant même que vous soyez venu au monde, avant même que vous ayez été formé dans le ventre de votre mère, Dieu vous a appelé non seulement à être ses enfants, mais aussi à le servir, à être des serviteurs de Dieu. Pas nécessairement des prophètes, hein, mais à être des serviteurs de Dieu. Et regardez, ça continue, il l'avait destiné à être son porte-parole auprès des nations. Et Jérémie se trouvait trop jeune pour parler en public, mais le Seigneur va lui dire qu'il devait aller voir tous ceux vers qui il l'enverrait et leur dire ce que lui, le Seigneur, lui ordonnerait. Et regardez dans le verset 9 et 10, son ministère consistait à prêcher rien d'autre que le jugement de Dieu. Il y a un temps de grâce, il y a un temps de jugement. Jérémie, malheureusement, tombe dans une période de jugement de Dieu. Il était chargé de transmettre les paroles qu'il avait reçues de Dieu sur les nations et sur les royaumes. Il aurait à déraciner, nous dit le texte biblique, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Et aussi, vous allez dans Jérémie, bon, je ne peux pas lire les 13 versets, mais vous verrez ça soit sur Internet, vous aurez le texte écrit, mais dans les versets au chapitre 16, les versets 1 à 13, eh bien, Dieu lui demande, il lui est entièrement défendu de se marier afin qu'il puisse se donner entièrement à son ministère. Et par conséquent, à cause de son ministère, eh bien, Jérémie est quand même quelqu'un qui a vécu une grande solitude, à cause de toutes les persécutions que le genre de message ou la forme de message qu'il apporta aux gens, eh bien, les interpellait. C'était un homme, hein, Jérémie 9, verset 1, c'était un homme animé d'une profonde tristesse et il a pleuré ouvertement sur les péchés de son peuple. Et il disait à son peuple que c'était une bande de déserteurs et qu'ils étaient tous adultères à l'égard du Seigneur. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un message qui était facile à recevoir pour des gens qui vivaient dans le péché, pour des gens qui se disaient appartenir au peuple de Dieu et qui faisaient tout le contraire de ce que Dieu demandait. Jérémie, chapitre 20, verset 9, il a vécu des moments de déprime terribles à la suite de son message et qui n'a pas été reçu. Et à chaque fois qu'il devait parler, il lui fallait ensuite appeler au secours, crier à la violence et à l'oppression. Transmettre la parole de Dieu lui valait chaque jour de récolter que des moqueries et des insultes. Au point où il a même pensé à quitter son ministère de prophète. Sa douleur est compréhensible parce que dans un ministère, et ça je pense que ça va vous encourager, parce que dans un ministère qui a duré 50 ans, il n'a jamais vu personne venir au Seigneur. Il n'a jamais vu personne se convertir en 50 ans. Et pourtant, c'est un ministère que Dieu l'avait appelé à exercer et il n'a jamais vu qui que ce soit se convertir. Le roi Sédécias, qui était le roi à ce moment-là, lui reprochait de proclamer le message du Seigneur alors que le roi, eh bien, aurait dû être le premier à l'encourager. Et pendant que les Babyloniens étaient en train d'assiéger Jérusalem, accomplissant ainsi les déclarations que le prophète Jérémie avait faites, eh bien, celui-ci, comme cadeau, le roi va le faire enfermer dans un donjon pour tout ce qu'il avait dit. Et après la chute, et là on tombe dans Lamentations chapitre 1, versets 1 à 5, après la chute de Jérusalem et que beaucoup de gens avaient été tués ou amenés en captivité, le prophète Jérémie ne se réjouit pas en se disant lui-même, « Ah, ben je les avais pourtant avertis, hein? » Non, le texte biblique nous dit qu'il souffre avec ceux qui restent. Il souffre avec ceux qui restent. Il y a vraiment la compassion, cette compassion de Dieu en lui. Et après avoir enduré toutes ces choses, c'est-à-dire après avoir été rejeté, après avoir été l'objet de moqueries, après avoir été emprisonné et ignoré, après avoir vu la ville de Jérusalem qui l'aimait tant être saccagée, profanée et détruite, après avoir connu les horreurs de la guerre, la brutalité de l'ennemi et les affres de la faim, Jérémie était toujours capable de se tenir debout parmi les décombres de la ville et les cadavres qui gisaient çà et là, et élever la voix pour louer Dieu, pour louer la grandeur de Dieu, pour louer la fidélité de Dieu qui n'avait jamais fait défaut envers son peuple. Comment était-il possible, malgré les épreuves et les difficultés qu'il avait traversées, que Jérémie pouvait continuer? Eh bien, Jérémie, c'est parce que Jérémie avait compris quel Dieu il servait. Et je pense que c'est une lacune dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. On prie Dieu, on prie le Seigneur, mais est-ce qu'on a bien saisi quel est le Dieu qu'on adore, qu'on loue et qu'on sert? Est-ce qu'on a bien saisi ce point? Jérémie savait que peu importe si les choses allaient bien ou si tout était sur le point de s'écrouler, Dieu serait toujours Dieu et qu'il serait éternellement fidèle envers son peuple. Est-ce que vous êtes amen à ça? C'est vraiment important qu'on puisse savoir, en tout cas, qu'on puisse se rappeler finalement que Dieu, peu importe ce qui survient, Dieu reste Dieu et que Dieu ne reniera pas sa fidélité envers son peuple parce que ça fait partie de ses attributs. Ce n'est pas simplement une promesse, ça fait aussi partie de ses attributs. Dieu est un Dieu qui est fidèle. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ces serviteurs qui nous ont précédés. Merci, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas eu honte d'ouvrir la bouche pour proclamer quel Dieu tu étais, pour proclamer, Seigneur, ta fidélité, ta grandeur, ton amour. Seigneur, merci parce que nous faisons partie de l'héritage de serviteurs qui nous ont précédés, parce que ton message au fil des années a été transmis par ces hommes qui ont su subir des persécutions, qui ont été rejetés par leur propre peuple, par leur propre famille, parce que tu leur avais demandé en tant que serviteur de proclamer ton message. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir non seulement d'avoir reçu ce message, mais aussi de pouvoir le partager autour de nous. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Et encore une fois, grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous, bénis ta parole ce matin, Seigneur, et que tu puisses être glorifié. Et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Il est dit dans Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 26, si vous avez votre Bible ce matin. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 26. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pas encourageant, ça, frères et sœurs? Hein? Le Seigneur, il n'y a pas un gros compte de banque qui, à chaque fois qu'il donne de l'argent, qui sort de l'argent de son compte de banque, eh bien, le compte de banque ne se remplit pas, qui diminue, puis le Seigneur, bien, va s'empêcher de donner parce qu'il a peur de marquer de l'argent. Regardez ce qu'il nous dit ici. Les compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! Je le dis, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. L'Éternel manifeste sa bonté pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche et qui compte sur lui. Il est bon d'attendre en silence le secours que l'Éternel enverra. Et frères et sœurs, combien de fois, lorsque nous avons des difficultés, nous courons à droite et à gauche pour essayer d'aller chercher des conseils, pour aller chercher du secours. Et ici, Jérémie nous donne un bon exemple. Regardez ce qu'il dit. Il est bon d'attendre en silence le secours que l'Éternel enverra. Pourquoi attendre en silence? Parce que quand on a médité les Écritures, quand on a une certaine compréhension des Écritures, eh bien, on n'a qu'à faire silence parce que tôt ou tard, le Saint-Esprit va parler à nos cœurs. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va parler à nos cœurs. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va nous donner la solution. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va nous encourager, va nous exhorter, va nous consoler. Malgré les difficultés que Jérémie vivait, il était encore capable de garder espoir parce qu'il croyait dans la fidélité de Dieu. Comme Jérémie, nous traversons tous, frères et sœurs, des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Lorsque nous vivrons à nouveau ce genre de situation dans l'avenir, nous devrions nous rappeler que Dieu est fidèle. Et heureusement ici que la Bible donne une preuve accablante de la fidélité immuable de notre grand Dieu, une fidélité qui ne change pas. Parce que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, eh bien, c'est la même fidélité que Dieu veut accorder, que Dieu promet pour chacun de ses enfants. Le mot « fidélité » au verset 3 ici signifie « fermeté, stabilité, ténacité ». Et ce mot nous fait voir Dieu comme étant celui sur qui nous pouvons compter, frères et sœurs. On vit dans un siècle où il n'y a pas grand monde sur qui on peut placer notre confiance. Pas grand monde, frères et sœurs. Il n'y a pas grand monde sur qui on peut compter aujourd'hui. Les gens, la parole, elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, la parole. Hein? Il y a une certaine époque où les gens, dans l'Ancien Testament, on donnait une chaussure, une chaussette, c'était réglé, quoi. Hein? Voilà, ça veut tout dire. Il fut un temps où on pouvait, dans les années 50, en tout cas jusqu'à dans les années 60, quand on signait un contrat, c'était respecté. Quand on signait un testament, c'était respecté. Aujourd'hui, on conteste toutes les signatures, on conteste tout. Les testaments sont contestés, les contrats sont contestés, il n'y a plus rien qui ne tienne. Mais combien c'est encourageant de savoir que nous pouvons être certains que nous pouvons compter sur celui qui nous a créés et qui nous a recréés en Jésus-Christ. Nous pouvons être certains que lorsque nous devrons affronter les tempêtes, les épreuves, et que nous devons traverser une vallée obscure dans nos vies, eh bien, Dieu se montrera toujours fidèle et toujours présent pour vous et moi. Pour le dire simplement, frères et sœurs, nous pouvons compter sur le Seigneur. Vous pouvez compter sur le Seigneur. Amen. Oui. Ne comptez surtout pas sur moi, hein? Comptez sur le Seigneur, ne vous appuyez pas sur aucun homme. Parce que vous pouvez même avoir pour compter sur moi et je cherche peut-être déjà quelqu'un, moi, sur qui je peux compter. Alors, il est préférable que vous vous appuyiez sur le Seigneur, uniquement sur le Seigneur, uniquement. Je voudrais prendre ce passage et souligner rapidement à travers ces versets trois mots importants qui nous disent pourquoi Jérémie pouvait dire que la fidélité de Dieu est grande. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Remarquez ce que ces mots nous enseignent concernant la grandeur, la fidélité indéfectible du Seigneur envers celui qui a placé sa confiance en lui. Verset 22. Dans sa grâce, Dieu est fidèle. Le mot bonté ou miséricorde apparaît plus de 30 fois dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui exprime ou qui fait ressortir tout ce qui concerne l'amour, la grâce, la miséricorde, la fidélité, la bonté et l'attachement envers quelqu'un. Ce mot révèle Dieu comme étant celui qui est, et ça je trouve l'expression elle est belle, celui, c'est pas de moi, hein? Cette expression elle révèle, ou ce mot révèle, Dieu comme étant celui qui est en amour avec sa créature. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas donner votre vie si vous n'êtes pas en amour avec quelqu'un. Il y a combien de gens par amour qui acceptent de mourir ou de sacrifier leur vie pour sauver la vie d'un autre? Et Dieu est en amour avec sa créature. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que vous êtes de ce qui, vous êtes ce que Dieu aime le. Comment je dirais ça? C'est que vous êtes quelque chose de. Vous avez une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Et on entend une autre voix qui nous traite comme étant des déchets, comme étant des moins que rien. C'est celui de l'ennemi de nos âmes. Mais que pour Dieu, là, on représente une valeur extraordinaire. Que Dieu ne cherche pas à nous humilier, mais que Dieu cherche à nous élever, à nous amener à la même hauteur que la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça, rassembler à Jésus, c'est incroyable que Dieu puisse, dans sa patience, continuer malgré nos manquements, à vouloir œuvrer dans nos vies pour nous amener à rassembler à Jésus-Christ. C'est incroyable, quoi, malgré nos manquements, malgré qu'il arrive souvent que nous nous éloignons de lui. Nous retrouvons son équivalent dans le Nouveau Testament à travers la notion de l'amour de Dieu, du mot « grâce ». Remarquez quelques réflexions rapides sur la grâce étonnante de Dieu. Jérémie semble se rappeler non seulement que c'était par pure grâce que Dieu avait libéré les Israélites de l'esclavage du joug des Égyptiens dans lequel ils se trouvaient, mais que c'était par grâce qu'il avait continué à se garder un peuple racheté, et ce malgré leur rébellion et leur murmure. Et je crois que dans ce texte, il y a une parole pour nous ce matin dans cette pensée. C'est par grâce C'est sa grâce qui nous sauve, frères et sœurs. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, c'est parce que dans sa grâce, à travers l'Évangile, Dieu a pu nous atteindre à la condition perdue et condamnée dans laquelle nous nous trouvions autrefois. Rappelons-nous, autrefois, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, dit l'apôtre Paul, à cause de nos péchés. Nous nous conformions alors à la manière de vivre ce monde. Nous obéissons au chef des puissances spirituelles de ce monde, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Nous tous, c'est pas mes paroles, hein, c'est toujours les paroles de Paul, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature et nous accomplissions ce que voulait notre corps et notre esprit. À cause de ce que nous étions naturellement, dit Paul, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la bonté de Dieu est si grande, dit Paul, et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, Dieu nous a fait revivre en Jésus-Christ. Pas une belle parole, ça? Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein? Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et si vous êtes ici assis ce matin, c'est encore une fois à cause de la grâce de Dieu. Hein? Si moi, je peux vous parler ce matin, c'est encore une fois parce que j'ai le privilège de bénéficier de la grâce de Dieu. Hein? Sans la grâce de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétien, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde. C'est le désespoir, c'est la dépression totale. Quoi. Ouais. La grâce de Dieu. Mais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions des ennemis de Dieu, lorsque nous nous moquions de lui, lorsque nous faisions tout le contraire de ce que sa parole nous demande, bien Christ est mort pour nous. Et non seulement il est mort pour nous, mais Dieu nous a amenés à revivre à travers la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvions aller à Dieu parce que nous ne connaissions pas le chemin. Alors Dieu est venu à nous dans la personne de Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Dieu, et à travers l'Évangile que nous avons entendu, Dieu nous a permis de prendre conscience de ce que nous étions afin que nous puissions être sauvés. Frères et sœurs, non seulement il y a une parole pour nous ce matin dans cette pensée, mais la deuxième, sa grâce nous sécurise. Dans sa grâce, Dieu nous a non seulement permis d'entendre l'Évangile, mais il nous protège en tant qu'enfants de Dieu. Nous bénéficions de la protection de Dieu, frères et sœurs. Ouais. Personne ne peut vous faire au-delà de ce que Dieu permet qu'il vous arrive, frères et sœurs. Personne. Est-ce que vous avez une conviction de ça dans votre cœur ce matin? Ouais. Ouais. Ah oui, mais moi je suis attaqué de tous côtés. Ah oui, mais moi, il y en a qui... Dieu ne permet pas, au-delà, premièrement, de ce que tu peux supporter, mais si tu subis ces attaques-là, c'est que Dieu le permet. Il y a une raison. On ne la connaît pas tout de suite, mais il y a une raison. Si tu es fidèle à Dieu, si tu vis pas dans le péché, il y a une raison pour ça. Et tu vas en sortir grandi. Si ta vie est en règle avec le Seigneur, tu vas en sortir grandi. Et si ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est parce qu'il te, probablement qu'il permet cela pour que tu te remettes en règle avec lui, pour que tu en sortes grandi. Oui. Vous savez, on vit dans un monde là où on nous vend que du bonheur à la télévision. Hein? Oui, du bonheur. Hein? Ouais. Et dans l'Église, là, ben, ce sentiment, il est rentré aussi. Hein? Ouais. Et on appartient au Seigneur, mais on ne devrait plus souffrir, puis jamais souffrir, puis jamais tomber malade. Et même au point de même, si on vit pas, si on vit, si on meurt avant 80 ans, c'est parce que on a sûrement eu du péché de temps en temps dans nos vies. On vit à peu près, c'est une mentalité qu'on retrouve dans certaines églises, frères et sœurs. Hein? Mais Dieu, il ne nous promet pas de bonheur hein, dans ce monde. Hein. Il nous promet de bonheur en lui. Hein. C'est une affaire différente. Alors, si vous êtes chrétien et vous continuez à vivre selon les choses du monde en pensant que le monde va vous donner le bonheur, bien, vous allez être extrêmement déçu parce que votre bonheur, il se trouve uniquement en Dieu. Uniquement en Dieu. Ouais. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre car le Seigneur le prend par la main. Et heureusement que le Seigneur ne nous retire pas sa main. Hein. Et heureusement que nous savons, à travers sa parole, que le Seigneur ne nous retirera jamais sa main. Hein. Ça, c'est réconfortant. Ça, c'est sécurisant. Ça. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. Oui. Oui, le Seigneur aime qu'on respecte le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Psaume 37, verset 28. Remercions le Seigneur pour sa grâce infaillible et immuable qui ne change pas et pour sa fidélité. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Pierre, car dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ici une espérance vivante, frères et sœurs. Et annonçons la résurrection des morts. Annonçons aux gens que Christ est vivant. Annonçons aux gens qu'il va nous ressusciter aussi et que nous croyons en ça. Frères et sœurs, à l'époque des apôtres, il y a des gens qui se moquaient de la résurrection des morts. Voilà que pourquoi la croix, lorsqu'on l'annonce, elle peut être un sujet de folie ou une source de salut. Pour ceux qui l'entendent. Il y a des gens qui vont se moquer quand on parle de la croix, puis il y en a d'autres qui vont dire, dans leur cœur à Saint-Esprit, on leur dit, écoute, ce que tu cherchais, tu viens de le trouver. Tu viens de le trouver. Ça se trouve en Jésus. Ouais. Et ça, c'est pour souvent les moins sages de ce monde, parce qu'ils raisonnent tant. Ils ne cherchent tellement pas à raisonner avec leur tête que ce message, pourtant ce message, il est tellement simple, tellement simple. T'es perdu pour l'éternité. Dieu t'aime. Et si tu meurs aujourd'hui ou demain sans Dieu, tu vas te présenter devant Dieu avec tous tes péchés, toutes tes mauvaises pensées, toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises actions. Et il y a quelqu'un qui est prêt à tout prendre ça sur lui. Et en retour, de te donner une page blanche, une page vierge, de te donner sa justice, pour que tu comparaisses devant Dieu, que Dieu te voit à travers lui, qui a donné sa vie pour toi, et te dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître. C'est extraordinaire, hein? C'est simple l'Évangile, hein? Oui. C'est simple l'Évangile. Oui. Ça, c'est évangéliser. Ça, c'est évangéliser. Quand on évangélise, c'est que la croix est là. Il faut que la croix, elle apparaisse. Il n'y a pas moyen d'être sauvé autrement que par la croix. Voilà. Voilà. Alors, Dieu... Pardon. Alors, c'est sécurisant. C'est sécurisant. La grâce de Dieu, c'est sécurisant d'avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, Dieu est fidèle dans ses dons. Verset 22b, 23 dans Jérémie. Jérémie, chapitre 3. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Et le mot compassion, frères et sœurs, est un mot qui signifie être remué dans nos entrailles pour aimer quelqu'un d'autre. Ce mot est une image de la grâce de Dieu agissant activement dans la vie du chrétien. Car voyez-vous, pendant que nous vivons des tempêtes, que nous marchons dans des vallées obscures, il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls. Dieu veille sur nos pas et dans sa grâce, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir adéquatement notre voyage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. C'est extraordinaire. Dieu veille sur vos pas, frères et sœurs. Dieu veille sur vos pas. Partout où vous mettez le pied, Dieu est avec vous, frères et sœurs. Il promet que nous pouvons compter sur sa grâce. Regardez, deuxième partie du verset 23. Dieu n'a pas promis que le chemin serait facile, mais il a promis que sa grâce ne nous ferait jamais défaut. Rappelez-vous ce qu'il a répondu à Paul lorsque celui-ci luttait avec cette écharpe qu'il avait dans la chair. « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance se manifeste pleinement ou manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Vous savez ce que c'est qu'un faible dans le monde? C'est quelqu'un qui n'a pas sa place. Hein? Un faible n'a pas sa place dans le monde. Et le Seigneur, il dit, c'est quand tu es faible que je peux manifester ma puissance à travers toi. Ouais. C'est quand tu arrêtes de compter sur tes propres efforts, sur tes propres talents, que les gens vont commencer à voir ma puissance se manifester à travers toi. Alors que c'est tout le contraire à l'extérieur. Quand vous venez de vous passer une audition, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi tes forces? Tes faiblesses, on a de la difficulté à les dire, donc on passe par-dessus. Mais c'est quoi tes forces? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise? Ouais. Le Seigneur, il dit, écoute, avoue que tu es un faible et tu vas me voir manifester ma puissance à travers toi. Et ça, c'est apprendre à compter sur Dieu dans tous les domaines de notre vie. Apprendre à compter sur Dieu dans tous les domaines de notre vie. On définit habituellement la grâce comme étant l'amour et la faveur imméritée de Dieu envers les pécheurs. C'est vrai qu'on y retrouve cette notion. Mais c'est un mot qui veut dire beaucoup plus que cela, car il fait également référence à la puissance de Dieu pour nous aider à faire face aux batailles de la vie et à être supportés par Dieu dans les moments difficiles. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'après nous avoir sauvés, Dieu n'est pas obligé de nous accompagner à chaque jour de notre vie? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé d'être là pour nous soutenir et nous aider à nous sortir du bourbier dans lequel on s'est trouvé? On se retrouve, frères et sœurs? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé? Ça fait partie encore de la grâce de Dieu, hein? Et à chaque fois que ça arrive, hein, si on prend vraiment, on commence à réfléchir, à méditer sur la situation dans laquelle on se trouvait quand on est sorti, hein, on ne pourra pas faire autrement si on est enfant de Dieu, de louer le Seigneur parce qu'on va voir la main de Dieu, que la main de Dieu était présente dans la situation dans laquelle on vivait. Ouais. Ouais. Et Jésus savait dans son 100% âme qu'il avait besoin de l'aide de son Père. Dans son 100% âme, il savait qu'il avait besoin de l'aide de son Père. Alors, à combien plus forte raison, nous, on doit se rappeler jusqu'à quel point on dépend de lui, mais aussi, ce qui est encourageant, que sa grâce ne nous fera jamais défaut. Oui. En ayant cela à l'esprit, nous devrions toujours nous rappeler que, peu importe ce que la vie nous réserve, nous pouvons avoir confiance dans le fait que, dans sa grâce, le Seigneur nous donnera la force nécessaire pour affronter les moments difficiles de la vie. Vous ne serez jamais confronté en tant que croyant à une situation où Dieu ne vous accordera pas sa grâce pour vous aider à passer à travers. Amen. Jamais. Remarquez la promesse qu'il fait à Isaïe. Isaïe 43, verset 1 à 3. Prenez-en en note si vous voulez lire à la maison. Je vais le lire pour vous éviter de tourner. « N'aie pas peur, je prends en main ta cause. » Alors, toi qui es dans cette salle ce matin, tu es un enfant de Dieu, eh bien, je te répète les mêmes paroles que Dieu a dit à Isaïe, à moins que vous pensiez que c'est uniquement réservé à Isaïe. Hein? Eh bien, Dieu s'adresse à vous ce matin. « N'aie pas peur, je prends en main ta cause. Je t'ai pris à mon service, c'est vrai, tu es mon serviteur, ma servante. Tu m'appartiens, c'est vrai, tu es mon enfant. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. » Voilà pourquoi ça n'appartient pas juste à Isaïe, ça. Hein? Puisque Shédrach, Meshach et Abednego ont passé dans la fournaise ardente et ils n'ont pas brûlé. Ouais. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je suis ton Sauveur. Frères et sœurs, les chrétiens du livre des Actes, c'est à travers ces passages-là qu'ils progressaient et qu'il n'y avait rien qui pouvait les atteindre, peu importe les menaces, peu importe ce qu'on pouvait leur faire. C'est sur ces paroles-là qu'ils construisaient leur vie chrétienne et qu'ils progressaient en tant qu'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, non seulement le Seigneur nous promet que nous pouvons compter sur sa grâce, mais il nous promet que nous pouvons compter sur sa présence. « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. » Hébreux chapitre 13, verset 5. « Et sachez-le, dit Jésus, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ces versets ainsi que d'autres nous révèlent cette grande vérité que Dieu est toujours présent avec ses enfants. Même quand il ne peut être vu, frères et sœurs, il est là. Lorsque vous ne pouvez pas voir Dieu dans votre vie parce que vous ne vivez pas comme il le demande, alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voici la belle parole que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. « Approchez-vous donc avec confiance du trône où la grâce de Dieu, où se trouve la grâce de Dieu. Vous y trouverez non seulement le pardon, mais la grâce nécessaire pour être secouru au bon moment. » Ça, c'est une belle parole, hein? Hébreux chapitre 4, verset 16. Hein? Approchez-vous donc avec confiance du trône de la grâce de Dieu. Vous êtes ses enfants. Approchez-vous du trône du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, non seulement nous pouvons compter sur sa grâce, non seulement nous pouvons compter sur sa présence, mais Dieu promet qu'il agira au-delà de ce que nous demandons. Éphésiens chapitre 3, verset 20, Paul dit, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. » Infiniment. Pensez au mot « puissance » ici. Si ce verset doit être pris au pied de la lettre, et je suis certain que c'est le cas, alors il devient évident que notre Dieu est plus grand et de loin que tous les problèmes auxquels nous sommes appelés à faire face et que nous aurons affrontés dans le futur. Frères et sœurs, avez-vous cette conviction ce matin que le Dieu que vous servez est plus grand que les problèmes que vous vivez? Parce que si vous n'avez pas cette certitude dans votre cœur, vous allez toujours essayer de régler vos problèmes par vous-même et vous allez toujours finir par vous casser la figure. Dieu est plus grand que peu importe le problème que vous vivez, Dieu est plus grand que tous les problèmes que vous pouvez vivre dans votre vie. Donc, il n'est jamais pris de court. Donc, il sera toujours capable de régler le problème. Et le problème que vous vivez, c'est un problème qui a déjà été vécu dans le passé parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et au nombre de personnes qu'il y a sur la Terre, maintenant 7 millions, eh bien, Dieu a déjà réglé ces problèmes-là dans le passé. Et s'il était capable de régler les mêmes problèmes dans le passé, il est capable de régler ce problème-là dans vos vies. Mais Dieu est toujours plus grand que votre problème. Amen. Ça, c'est vraiment important que vous puissiez avoir cette certitude dans votre cœur. Dieu est un Dieu incroyable, frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous rappeler cette grande vérité. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de ses enfants. Il promet aussi qu'il pourvoira tous nos besoins. Mon Dieu, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dit Jésus. Et j'aime bien ce texte, je vais vous le lire. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. À moins que vous couriez après la mode. Hein? Et là, vous allez vous essouffler parce que la mode, elle change à tous les 4 mois. Hein? Trois fois par année. Hein? 4 saisons. 4 fois par année. Hein? Ouais, tous les 3 mois, la mode, elle change. J'allais vous essouffler. Hein. Seigneur, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas au sujet des vêtements que vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel. Il ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse pas de récolte dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et cette belle parole de Jésus qui dit « À chaque jour suffit sa peine. » Arrête de t'énerver pour ce qui va t'arriver demain, tu peux mourir cette nuit. Arrête de t'énerver. De toute façon, la grâce que tu as besoin pour demain, Dieu te la réserve pour demain, il ne te la donnera pas pour aujourd'hui. Hein? Dieu nous accorde une grâce à chaque jour pour nous aider dans nos besoins. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même avec toute sa richesse, Salomon n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi est petite? Ne vous inquiétez donc pas en disant, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Et ça, c'est terrible, cette parole, hein? Car ce sont les païens qui cherchent continuellement cela. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, il le sait. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste que Dieu demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Frères et sœurs, ce passage-là, quand vous le méditez, hein, si on fait le contraire, il est impossible de vivre comme Dieu nous demande. Parce qu'on vit dans l'inquiétude d'être sûr qu'on va avoir des vêtements, qu'on va être sûr qu'on va payer nos loyers, qu'on va être sûr qu'on va avoir ci, qu'on va avoir de la nourriture. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se préoccuper du royaume de Dieu et de la vie que Dieu nous demande. Et là, on peut entendre la parole du Seigneur qui nous dit « Comme ta foi est petite. Comme ta foi est petite. Ouais. » Et vous savez ce qui peut arriver si on appartient sincèrement à Dieu. Dieu va nous permettre de vivre des épreuves pour augmenter la mesure de notre foi. Ça, c'est la réponse de Dieu à une foi qui est très petite. Ouais. Ouais. Dieu va permettre des épreuves dans votre vie si vous lui appartenez, si vous êtes né de nouveau. Dieu va permettre des épreuves dans votre vie pour augmenter la mesure de votre foi. Parce que Dieu ne veut pas perdre son nom à cause d'un de ses enfants. Dieu dit qu'il va pouvoir à tous les besoins de ses enfants. Eh bien, Dieu veut... En plus, c'est que Dieu veut accomplir ses promesses. Quoi. Ouais. Et à cause de notre foi qui est si petite, on empêche Dieu d'accomplir ses promesses puisqu'on fait le travail, on fait son travail, on fait le travail à sa place. Quoi. Et Dieu dit, j'ai pas besoin de toi. Non. Tout ce que je veux, hein, c'est que tu me rendes gloire. Que tu réalises que je suis vivant, que je suis là, quoi, jour après jour. Et que j'ai toujours une portion de ma grâce à t'accorder jour après jour. Et que cette grâce se renouvelle de jour en jour. C'est magnifique, ça, non? Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est un beau texte. C'est vrai qu'on est dans les lamentations, mais derrière tout ça, on est avec un homme qui connaissait son Dieu, quoi. Ouais. Connaissait son Dieu. S'il n'avait pas connu, est-ce que vous savez que si Jérémie n'avait pas connu son Dieu, il aurait été spendre, hein? Ce qu'a vécu cet homme-là, quand vous lisez sa vie, vous dites, c'est pas possible qu'un homme soit en mesure de résister, de continuer à vivre avec tout ce qu'il a vécu, quoi. Pas juste les lamentations. Hein, lisez le livre de Jérémie, quoi. Mais tout le monde voulait avoir sa peau, quoi. Mais il avait la certitude que Dieu était là, quoi. Qu'il était avec lui, qu'il était présent, que le ministère dans lequel il travaillait, c'était Dieu qui l'avait appelé à ce ministère. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Je n'ai pas vu ses enfants, ni ses petits-enfants, commencer à faire la manche pour pouvoir avoir du pain pour manger et à faire la manche pour avoir un vêtement à se mettre sur le dos. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ces versets nous enseignent une grande vérité, frères et sœurs. Dieu promet de répondre à nos besoins. Il a promis de prendre soin de ses enfants et il le fera. Et il est possible que sa façon de prendre soin de vous puisse être différente de ce à quoi vous vous attendiez. Mais Dieu ne vous décevra jamais. C'est ça qui est intéressant. Dieu ne vous décevra jamais. Et c'est là que la foi dans la confiance en Dieu, en ce Dieu, entre en jeu. Et c'est à ça que nous devons en arriver, frères et sœurs. Et c'est à ça que Dieu travaille dans différentes circonstances de notre vie pour nous amener à se dire, Dieu répond à tous mes besoins. Peut-être pas mes besoins personnels, peut-être pas de la façon que moi je le veux, mais Dieu va répondre à tous mes besoins. Et l'essentiel, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir de la nourriture et c'est d'être vêtu. Ça, c'est l'essentiel. Le reste, Dieu va travailler souvent très différemment de ce que vous pensez. Hein? Très différemment. Mais avec Dieu, vous ne serez pas un sans-abri. Puis avec Dieu, vous ne mendierez pas pour la nourriture ni pour le vêtement. Mais ce sont les trois choses que Jésus nous rappelle. Ce qui compte dans la vie d'un homme, hein? vêtements, nourriture et un toit pour se protéger. Ouais. Et l'argent va venir. L'argent va venir. Dieu va combler. Hein? Parce qu'au niveau de l'argent, il dit, tout ce qui traîne dans le monde, ça m'appartient. Hein? L'or qui est dans le sous-sol de la terre, hein, ça appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé, la terre. Hein? C'est lui qui est le propriétaire. Hein? Ouais. Et l'argent qu'on tire de l'or qui appartient à Dieu, qu'on fait des billets, ça appartient à Dieu. Hein? Parce qu'on utilise ce qui appartient à Dieu, on utilise l'or hein, pour garantir l'argent. Hein? N'aimez pas des billets pour rien. Hein? Ouais. Tout appartient à Dieu. Alors, frères et sœurs, quand vous aurez besoin vraiment de billets, Dieu est capable de toucher le cœur de quelqu'un et de dire... Comme il devrait toucher vos cœurs pour soutenir ceux qui sont à l'Institut biblique. Hein. C'est l'argent de Dieu que vous avez dans vos poches. Hein. C'est l'argent de Dieu qui sommeille dans vos comptes bancaires. Hein. Ouais. Et on aura à rendre compte de ce qu'on aura fait avec l'argent de Dieu pour son royaume, hein, pour l'avancement de son royaume. Rappelez-vous la confiance que Job avait eue en Dieu. Je suis certain que si Job avait eu à choisir, il aurait choisi une autre alternative que celle de perdre ses enfants, sa santé et sa richesse. Mais il était prêt à faire confiance à sa femme, pas à sa femme, non, loin de là, confiance au Seigneur, parce qu'elle lui a demandé de maudire Dieu. Confiance au Seigneur, malgré une situation qui le dépassait, qui nous est impossible pour nous, même aujourd'hui, de comprendre et qui n'a aucun sens pour nous. Un par un, Dieu a tout détruit, ce qui lui appartenait, y compris ses propres enfants. Mais Dieu l'a béni parce qu'il était fidèle. Et Dieu lui a redonné le double de ce qu'il avait perdu par la suite. Ouais. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Croyons-nous vraiment que le Seigneur est absolument fidèle? Croyons-nous qu'il vise toujours à nous accorder le meilleur pour nos vies? Avons-nous confiance dans le fait que Dieu pourvoira effectivement à tous nos besoins? Il promet qu'il sera toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie, chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Ces versets révèlent la vérité sur la nature de Dieu qui le rend fiable à tout moment. Et tout cela vient simplement du fait qu'il ne change pas, frères et sœurs. Dieu est le même aujourd'hui comme il l'a toujours été et ce qu'il est. Et ce qu'il a été, il en sera ainsi pour toute l'éternité. Amen. Ça, c'est important, hein? Je le dis des fois en blague, hein? Vous imaginez si Dieu commence à changer d'idée en l'an 2037 et dire, il n'y a pas beaucoup qui acceptent la croix, je vais changer le moyen du salut. On va arrondir ça, on va mettre ça bien rose. Ça va être magnifique. Vous imaginez où on est où, nous, avec ça, hein? Ouais. Alors, on est insécure, quoi. On se dit, oui, mais tout à coup, Dieu peut changer. Non, je ne change pas, je suis le même. Le moyen de salut... Il date juste après la sortie du Jardin d'Éden, et c'est le même pour tous. Et ça sera le même pour tous, tant aussi longtemps que je ne vous rappelle pas à moi. Amen? Oui. Alors là-dessus, on peut dire une chose, Dieu n'est pas mêlé dans sa tête, et Dieu ne s'est pas infêlé. Dieu, ce qu'il dit, Dieu il l'accomplit. Et ça, c'est quelque chose de certain pour nous, et c'est rassurant pour nous aussi, quoi. Frères et sœurs, Dieu a toujours été présent dans la vie des personnages de la Bible qui ont placé leur foi en lui, et il en sera à notre époque dans la vie de quiconque lui fera confiance. Dieu est un Dieu inébranlable et digne de confiance. Il ne change pas, il ne se trompe jamais. Les promesses de Dieu rafraîchissent notre âme. Regardez verset 23a. Regardez, les bontés de l'Éternel, dit Jérémie, se renouvellent chaque matin. Et selon ce verset, frères et sœurs, la grâce de Dieu reçue aujourd'hui sera aussi rafraîchissante que la grâce que vous avez reçue la veille. Nous n'avons pas à nous inquiéter que sa grâce nous fasse défaut, et nous en aurons suffisamment pour vivre au jour le jour, car Dieu renouvelle sa grâce envers nous jour après jour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, dit Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Tout comme chaque nouvelle journée apporte avec elle son lot de fardeaux et de problèmes, chaque jour que Dieu fait témoigne d'une grâce renouvelée chaque jour, d'un soutien nouveau qui ne nous fait jamais défaut de la part de ce Dieu qui est merveilleux, incomparable et gracieux. La fidélité de Dieu réside dans le fait que nous nous sommes levés ce matin avec toute notre intelligence. Nous nous sommes levés avec de l'air pour respirer, de la nourriture à manger et surtout, frères et sœurs, des gens à aimer autour de nous. Des gens à aimer autour de nous, comme Christ nous a aimés. Dieu est fidèle, c'est un Seigneur merveilleux. Finalement, rapidement, le mot bonté, les versets 24 à 26, le mot bonté, eh bien, il nous rappelle que Dieu est fidèle dans sa bonté. Et le mot bonté souligne l'idée de quelqu'un qui est plaisant, agréable et excellent. Ce mot fait référence au caractère de Dieu. Il nous rappelle que Dieu réserve toujours le meilleur dans la vie de ses enfants. Et pourquoi on dit que le mot bonté sous-entend quelqu'un qui est plaisant, agréable et excellent? Parce que Jésus a dit, il n'y a que seul Dieu qui est bon. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Les gens se prennent tous, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des bonnes personnes. Il y a seul Dieu qui est bon. Cette bonté d'en haut qui est complètement différente de la définition de la bonté qu'on a ici-bas sur la terre, qu'on retrouve dans nos dictionnaires ici, écrits par les hommes. Il est celui que nous trouvons, en qui nous trouvons notre entière satisfaction. Verset 24, regardez, verset, première partie du verset 24. Dieu est écrit, est décrit ici par Jérémie comme étant une portion de l'âme. Ce mot signifie partager, partage ou trésor. Il fait référence au butin de guerre. Jérémie est en train de dire que dans la bataille de la vie, Dieu est sa récompense, Dieu est son partage et Dieu est son trésor. Amen! Ouais! Lorsque le Seigneur est vu sous cet angle, il sera tout ce dont une personne a besoin pour que son âme soit satisfaite. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, dit le psalmiste, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Il est possible que Dieu ne nous donne pas les choses que nous désirons dans la vie, mais il nous donnera toujours ce que lui croit être le meilleur pour nous, afin de satisfaire notre âme. Les frères et sœurs, à l'extérieur, c'est exactement ce qui se passe. Les gens essaient par tous les moyens de satisfaire leur âme. Vous savez, la parole nous dit que l'âme crie. L'âme crie. Hein? On n'entend peut-être pas la voix de l'âme. Hein? Elle vient travailler dans nos têtes, elle vient travailler dans notre cœur, elle vient travailler dans toutes les fibres de notre âme, de notre corps, pardon. Ouais. Et c'est pour ça que les gens se lancent dans toutes sortes de péchés dans le monde. Hein? Ouais. Désespérément à la recherche d'une satisfaction qu'ils ne trouveront uniquement qu'en Jésus-Christ. Uniquement qu'en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est un soutien pour nous. Dieu ne décevra, verset 24, fin du verset 24 et 25. Dieu ne décevra jamais. Et Isaïe dit ceci, verset, chapitre 49, verset 23. Dieu ne décevra jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Il a dit à Isaïe, « Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus, il sera sauvé. » Frères et sœurs, il n'y a pas une seule promesse que Dieu n'honorera pas. Parce qu'aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne sera supprimé, et ce jusqu'à la fin de toute chose, dit Jésus. Sa parole subsistera toujours, elle a sa place éternelle dans le ciel, et sa fidélité subsiste de siècle en siècle. L'herbe sèche, Isaïe dit dans le chapitre 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Ouais. Et tous ceux qui sont nés de nouveau vont subsister éternellement dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. Ouais. Nous serons avec celui qui est la parole, celui qui est là pour l'éternité. C'est extraordinaire, ça. Et le choix que l'homme a, hein, c'est de choisir de passer l'éternité avec Dieu ou de passer l'éternité sans Dieu. Ouais. Et vous savez, c'est mon opinion à travers les Écritures, hein, à travers ceux qui vont être appelés, hein, à être perdus pour l'éternité. Dieu, avant de les envoyer là où ils doivent aller, en enfer, hein, Dieu va leur montrer ce qu'ils auront perdu pour l'éternité. Le paradis qu'on est incapable de nous imaginer, Dieu va leur montrer. Et les grincements dedans, hein, ouais, ils vont regretter pour l'éternité d'avoir rejeté la grâce de Dieu, rejeté l'invitation que Dieu leur donne, d'avoir rejeté tout ce que Dieu leur avait voulu leur donner, quoi, leur avait réservé. Ça, là, c'est pire que brûler, hein. Parce que c'est une question d'éternité. Hein? Ouais. Ce n'est pas une question de jour. Je ne suis pas envoyé en prison pour 2 semaines, 3 semaines. Hein? Pour l'éternité. Hein? Voilà le trésor. Voilà ce que Dieu m'avait réservé. Et que bêtement, parce que je n'ai pas voulu renoncer à mes péchés ou reconnaître que j'étais un pécheur, bêtement, eh bien, je viens de perdre ce trésor que Dieu avait en réserve pour moi. Voilà les biens que Dieu avait en réserve. Et je les perds, ces biens-là, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez imaginer seulement en tant que personne né de nouveau, personne sauvée par la grâce de Dieu, est-ce que vous pouvez simplement imaginer les biens que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent? Êtes-vous en train de vous accumuler des trésors parmi le trésor que Dieu est en train de vous préparer au ciel? Le chrétien, quand il meurt, la parole est claire dans l'Apocalypse, ses œuvres le suivent. Quelles sont les œuvres qui vous suivraient si vous mouriez aujourd'hui ou demain? C'est pas moi qui le dis, hein? On en a parlé à l'étude biblique il y a quelques semaines. Le chrétien, quand il meurt, ses œuvres le suivent au ciel. Ouais. Si vous venez à lui pour être sauvé, il ne vous enverra jamais promener, parce qu'il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Si vous lui faites confiance pour être sauvé, il ne vous enverra jamais en enfer. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Si vous comptez sur lui pour les besoins de votre vie, vous ne serez jamais déçus. Il vous soutiendra dans cette vie et dans l'éternité. Frères et sœurs, il y a une pression sociale incroyable qui existe, et elle est spirituelle aussi. Pourquoi il y a des gens qui renoncent à accepter Jésus-Christ? J'ai travaillé avec quelqu'un pendant plusieurs semaines. Je lui ai consacré 2 à 3 heures par jeudi. Et il était sur le point de se convertir, hein. Mais il devait passer devant les médecins de la Vierge Noire. Et tout sur quoi il comptait pour son avenir, pour vivre, c'était sur la Vierge Noire. Et je lui disais, écoute, c'est pas plus valorisant de commencer à travailler de tes mains, c'est pas valorisant de te sentir utile pour les autres, plutôt que de te voir comme une victime, c'est pas plus valorisant pour toi. Je dis, écoute, le Seigneur est prêt à t'accorder tout ça, quoi. Il est prêt à te libérer de ce que tu vis, là, présentement, qui te tient captif depuis des années. Et la semaine d'après, il ne m'a pas rappelé. Oui. Oui. Combien de gens qui refusent d'accepter le Seigneur parce qu'ils savent que s'ils devaient accepter le Seigneur, ils devraient laisser tomber leur bien-être social pour aller travailler, leur assurance chômage pour essayer de se trouver un emploi? Ils sont esclaves de la providence de l'État. Oui. Il y en a combien? Alors que si on acceptait l'offre de Jésus-Christ, hein, on aurait au-delà de ce qu'on peut toucher, hein, de ce que nos gouvernements peuvent nous donner. Hein. Oui, hein. Hey, du travail, il y en a, hein? Mon fils n'a pas d'expérience du travail et est en train de refuser des emplois, quoi. Oh, c'est vrai qu'il y a un diplôme, mais il y a le choix, quoi. Il y a du travail pour celui qui veut travailler, hein? Ouais. Mais l'État, en prenant la place de Dieu pour être la providence des hommes et des femmes, eh bien, l'État a vendu autre chose. Elle maintient les gens esclaves. Esclave de quelque chose qui ne rend pas les gens heureux, finalement. Qui rend les gens dépendants. Dépendants, mais dépendants de quoi? Ça les empêche de vivre comme Dieu leur demande de vivre. Alors, les gens ne sont pas heureux, on les comprend. Belgique, champion de médicaments. France, champion de médicaments. Canada, champion de médicaments, maintenant. Ouais, ouais. Si vous comptez sur lui pour les besoins de votre vie, vous ne serez jamais déçus. Il vous soutiendra dans cette vie et dans l'éternité. Verset 26, dans ce contexte, Jérémie dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ceux qui comptent sur lui verront le Seigneur les soulager de leur peine et les délivrer de leur épreuve. Il ne fera jamais défaut à ses enfants, mais en même temps, il les délivrera de toutes les vallées obscures dans lesquelles ils marchent. Nous avons besoin de nous rappeler ce matin que Dieu est capable de libérer à la fois le chrétien et le pécheur. Chers amis, j'aimerais vous rappeler en terminant que Dieu sait où vous en êtes ce matin. Il sait exactement ce que vous traversez. Il ne vous abandonnera pas, mais il vous gardera fidèlement. Et il vous fera sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez en son temps. Les yeux de l'Éternel, psaume 34, verset 15 à 19 et le verset 22. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Vous pouvez être perdu ce matin. Vous pouvez penser que vous êtes condamné, qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. J'aimerais simplement vous dire que dans sa grâce, Dieu peut encore sauver aujourd'hui. Comment? Eh bien, il vous suffit de mettre votre foi en lui, de cesser de vous appuyer sur vous ou à une religion quelconque, ou à votre propre bonté, de venir à Dieu en confessant vos péchés et de faire appel à Jésus pour vous sauver, et il vous sauvera. Car il est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Grande est la foi de ceux qui peuvent tenir au milieu des décombres de la vie et qui proclament les louanges du Seigneur. Jérémie faisait partie de cette sorte de chrétien. En faites-vous partie ce matin. Pendant les premières années de l'activité missionnaire en Chine, 4 membres d'une même famille acceptèrent le Seigneur. Mais le plus jeune, un petit garçon, ne l'avait pas fait. Plus tard, il est venu voir son père en lui disant qu'il voulait confesser, c'est-à-dire quelques mois plus tard, il est venu voir son père en lui disant qu'il voulait confesser publiquement qu'il avait reçu Jésus comme sauveur. Le père estima que son fils n'était pas encore assez vieux, alors il lui a expliqué qu'il pouvait encore attendre un jour avant de faire profession de foi, parce qu'il était encore trop jeune. À ce père qui était aussi bien intentionné et préoccupé de l'avenir spirituel de son fils, voici la réponse touchante que le garçon lui a donnée. « Papa, Jésus a promis de porter les agneaux dans ses bras. Je ne suis qu'un petit garçon. Alors, il lui sera facile, beaucoup plus facile, pour lui de me porter. » Et la sincérité et la simplicité de la foi du garçon fit une profonde impression sur le père, et rapidement il a reconnu que son fils savait ce qu'il faisait. Quelque temps après, le jeune garçon confessa publiquement sa foi en Christ et obéit au Seigneur en se faisant baptiser. Alors que vous et moi, nous sommes confrontés aux batailles, aux fardeaux, aux vallées, aux tempêtes et aux épreuves de la vie, rappelons-nous toujours que nous sommes ces petits agneaux et qu'il est capable de nous porter en toute sécurité. Êtes-vous en train de livrer une bataille qui vous épuise ce matin? Apportez-la au Père. Faites-lui confiance, car il est fidèle et sa fidélité, elle est immuable. Il ne vous fera jamais défaut. Si vous êtes perdu, que vous avez besoin d'être sauvé ce matin, vous pouvez venir à Jésus-Christ et il vous sauvera. Si vous traversez une période difficile et que vous avez besoin d'aide, Dieu vous fournira l'aide dont vous avez besoin. Si vous luttez avec votre nature humaine et certains péchés que vous avez besoin de vous rappeler ce matin que Dieu est capable de libérer à la fois le chrétien et le pécheur, confessez-lui. Faites-le dans l'intimité de votre chambre. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que Dieu sait où vous en êtes ce matin. Il sait exactement ce que vous traversez. Il ne vous abandonnera pas, mais il vous gardera fidèlement. Il vous fera sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez en son temps. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. On l'a lu tantôt. Vous êtes peut-être perdu ce matin. Vous pouvez penser que vous êtes condamné, qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Je le répète. J'aimerais simplement vous dire que dans sa grâce, Dieu veut vous sauver. Amen. Oui, oui. Oui, c'est frère, ça. J'espère que vous pouvez dire comme Jérémie à son époque. Oh, que ta fidélité est grande. Avons-nous besoin de faire l'expérience de cette fidélité ce matin? Oui. Oui. Frères et sœurs, beaucoup de gens se jugent fidélité les uns envers les autres. Et il y a combien de gens qui trompent à l'insu, que ce soit leur conjoint, que ce soit leurs amis, que ce soit leurs frères, leurs sœurs. Quand Dieu dit qu'il est fidèle, vos noms sont gravés dans sa main. Vos noms sont gravés dans sa main. Vos noms sont gravés dans sa main. Et Dieu n'est pas limité à chaque matin quand il fait déployer son soleil sur la terre. Dieu se tourne les mains et il voit en même temps la liste de tous ceux qui lui appartiennent. Et Dieu déverse une grâce toute particulière qu'il en réserve pour chacun de ses enfants, pour tous ceux qui l'ont. C'est extraordinaire, ça. Frères et sœurs, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Faites-lui confiance. Il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Et il veut vous amener à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique en terminant. De ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez à agir toujours plus comme toi. Non.